Passion de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, ben, une prochaine heure qui sera consacrée entièrement à l'univers du Western. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on aura le plaisir de recevoir, d'échanger avec Jacques Lamontagne. Jacques Lamontagne qui nous offrait l'an dernier un premier tome de la série Wild West, Calamité Jane, scénarisé par Thierry Gloris. Donc, lui, il s'occupe du dessin. Et un deuxième tome qui est arrivé fin avril dernier, Wild Bill, qui poursuit donc l'histoire qui avait déjà été amorcée l'année dernière. Alors, on avait envie de faire un peu le point avec lui sur ce travail, sur cette série qui est en train de se développer. On a l'impression d'être peut-être un peu à mi-parcours de ses développements. Jaser avec lui, évidemment, du western en BD, mais aussi de comment cette série s'est développée, des choix visuels, entre autres, des choix narratifs qui ont été faits. Bref, de vous offrir un regard panoramique sur cette série, donc sur Wild West, qui est offert du côté de Dupuis. Alors, c'est ce qu'on va faire cette semaine, ici, à La Vie en BD. À La Vie en BD, on plonge donc dans l'univers de la série Wild West. Je le rappelle, Wild West qui est scénarisé par Thierry Gloris, qui est dessiné par Jacques Lamontagne. C'est disponible du côté de chez Dupuis. Et Jacques Lamontagne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, d'entrée de jeu, j'ai l'impression que bon, avec Wild West, tu es lancé à bras raccourcis dans le western, mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Si on fait un peu l'histoire de Wild West, de ce que j'en ai compris, tu cherchais d'abord et avant tout un récit autour de drame humain dans une petite communauté, et tu avais même lancé Martin Guerre comme référence à ton scénariste. Là.
Oui, c'est ça. En fait, on cherchait un prétexte pour retravailler ensemble une série. Pour des gens qui l'ignorent, on avait travaillé durant 4 albums sur la série Aspic. Et puis, comme la dynamique de travail était fort intéressante, on s'est dit, bon, ce serait bien de remettre ça. Thierry m'avait demandé les horizons, les univers auxquels j'aimerais, sur lesquels j'aimerais travailler. Bon, je lui avais parlé de Martin Guerre parce que j'aurais aimé travailler sur une petite communauté, période médiévale. Il y avait un côté un peu crasseux qui me plaisait bien. Et Thierry m'a dit, ben, laisse-moi un peu de temps, je réfléchis à ça. Et il m'est revenu deux semaines plus tard, avec l'idée de faire un western.
OK, il avait retenu certains mots-clés, j'imagine, crasseux, petite communauté et le reste. Puis on les transpose, dans le fond, dans un univers où, si je cherche une référence télévisuelle, on est un peu dans l'amorce, à tout le moins, dans le premier tome, dans un univers à la Deadwood. Là.
Voilà, voilà. En fait, j'avais parlé aussi de sale gueule. J'aime bien les galeries de personnages qui sont très typées. Et puis, sur le coup, ça m'a un peu étonné que Thierry me propose un western. Mais après y avoir réfléchi, je me suis rappelé des films de Sergio Leone avec les grands paysages de visage, tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas?
Alors, ça a été suffisant, si on peut dire, pour te lancer. Tu as suivi un peu l'instinct de Thierry là-dedans. Tu t'es lancé, tu as plongé. Est-ce qu'on commence par faire un peu de recherche pour s'imprégner du genre? On lit des westerns, on réécoute des films, on replonge dans des séries, ou on se lance un peu simplement dans le genre sans replonger dans l'histoire du genre, à tout le moins du côté BD ou du côté autre médium?
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que je n'avais jamais vraiment lu de BD western, outre il y avait Bonne Sœur que j'avais lu. J'avais lu également c'était Alexis qui faisait ça, Al Crane, je crois, qui était une espèce de parodie de western assez savoureuse. Mais outre ça, bon, je n'avais pas lu les grands de la BD. Bon, non pas que Book n'est pas un grand de la BD, mais j'ai surtout en tête Giro. Et par contre, j'avais vu tous les Sergio Leone. J'avais regardé, visionné également la série Deadwood. Donc, bon, j'avais déjà l'idée de quel type de western j'aurais voulu réaliser. Mais c'était surtout au niveau des références visuelles, au niveau de la documentation qu'il a fallu que je me prépare pour aborder la série Wild West.
On va cadrer un peu l'univers narratif d'entrée de jeu, puis on va plonger par la suite dans l'univers visuel. Parlons peut-être un peu des personnages, parce que dans le fond, au départ, vous étiez lancé peut-être un peu plus sur Wild Bill, puis éventuellement, c'est Martha Canary qui s'est imposée comme la figure centrale, à tout le moins pour le premier tome. Puis après ça, une figure tout en équilibre avec Wild Bill, dans le fond, qui prennent pas mal, presque autant d'espace, les deux tomes mis côte à côte, là, dans le fond.
Oui, sans vouloir prendre la place de Thierry, de ce que je me souviens, ce qu'il m'avait dit, c'est que au début, Wild West devait s'articuler autour de Wild Bill. Et est arrivé le phénomène MeToo avec toutes les dénonciations, etc. Et Thierry a pris du recul sur son travail. Il s'est dit que ce serait bien d'aborder la vie d'une femme à l'époque western. Toutes les difficultés que ces femmes-là devaient surmonter, et puis Calamity Jane s'est imposée comme personnage principal.
Alors, on se retrouve un peu, j'ai l'impression, dans une dynamique un peu comme Aspic, dont on parlait tantôt, dans la mesure où Aspic, on se retrouve avec un personnage central féminin qui est avant son temps aussi, dans le fond, qui veut dépasser, aller au-delà des codes sociaux, de ce qui lui est imposé par l'ordre social. Donc, avec Calamity Jane, avec Martha Canary, on retrouve un peu aussi ce type de personnage-là.
C'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec Aspic, avec Flora, qui était précurseur de son temps. Bon, elle avait fait la polytechnique policière, et puis, donc, elle était avant son temps. Calamity Jane est un peu ça. Je pense que, d'une certaine manière, c'est par la force des choses aussi bon, qu'il a fallu qu'elle se taille une place dans la période western. Mais oui, effectivement, Thierry semble bien apprécier, si on veut, les femmes fortes, les femmes de caractère.
Et ça devient des personnages intéressants aussi. Évidemment, on pourra le développer d'autant plus dans la mesure où c'est des personnages qui sont tout en zone de gris, qu'on découvre aussi, que tu es amené à mettre en scène dans Wild West des personnages qui ont des bons côtés, qui ont un lourd bagage aussi parfois, donc qui sont très balancés au bout du compte.
Oui, il y a personne de parfait dans la série Wild West. C'est-à-dire que chaque personnage a sa zone d'ombre et sa zone de lumière. Je dirais que Wild Bill est peut-être le personnage le plus fermé. C'est-à-dire, il est ni bon ni mauvais. Donc, effectivement, la psychologie des personnages, la façon dont Thierry l'a abordée est très intéressante.
Et ça veut dire que toi, au niveau visuel, il faut que tu réussisses aussi à illustrer cette psychologie des personnages-là. Donc, j'imagine qu'on faut aller vers des visages qui sont assez réalistes, qui sont assez expressifs, qui sont porteurs d'un bagage, autant qu'ils sont aptes à absorber un bagage qu'on va leur donner aussi au fil de l'album ou des
Oui,
albums.
c'est un aspect de la BD qui me plaît beaucoup, le côté théâtral, c'est-à-dire de retranscrire, de rendre les états d'âme des personnages. Bon, avec Calamity Jane, c'est un peu plus facile. Wild Bill est plutôt fermé, je dirais, c'est une espèce de Spock du western, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas vraiment d'expression, il est toujours neutre, il est très, très fermé, bon, il a une mission, et puis, donc, il y a très peu d'humour qui vient de la part de Wild Bill, mais Calamity Jane, elle, bon, passe par une gamme d'émotions qui sont intéressantes à transposer en dessin.
Oui, puis à la limite, en fait, c'est si on regarde, par exemple, l'arc qui est dans le premier tome, l'arc narratif, la Martha Canary de la première case ou des premières pages, versus celle qu'on retrouve à la fin qui poursuit son chemin, ben c'est pratiquement plus le même personnage. Elle a tellement vécu d'épreuves à l'intérieur de ces moments-là, d'épreuves transformatrices, que c'est la même personne, mais c'est plus le même personnage au bout du compte, pratiquement.
Oui, c'est vrai. Bon, sans dire qu'elle est une ingénue parce qu'elle travaille quand même dans un bordel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au début prostituée, mais elle fait le ménage entre les passes. Donc, c'est une personne qui est quand même qui côtoie la violence et parce que bon, elle travaille dans un saloon, mais c'est vrai qu'elle ne la subit pas au début. Et bon, il y a un événement qui arrive dans le tome 1 qui fait en sorte que Calamity Jane se transforme. Elle n'a pas le choix. Bon, c'est simplement pour survivre qu'elle doit se transformer comme ça.
Et ça veut dire que toi, comme dessinateur, Jacques Lamontagne, dans le fond, comment on organise un peu l'évolution psychologique d'un personnage comme ça, dans le fond, sachant qu'il y aura des moments marquants, des moments charnières, et j'imagine que est-ce qu'on durcifie un peu les traits, est-ce qu'il y a une certaine évolution, parce que, dans le fond, faut qu'on sente comme lecteur cette progression-là aussi.
Oui, c'est vrai. J'ai une drôle de façon de fonctionner, c'est-à-dire que je ne lis que les 5 pages que je vais illustrer par mois. Je vais rarement au-delà de ça. Parce que j'aime me laisser surprendre par le scénarisme. Bon, bien sûr, parfois il faut faire attention parce que il y a certains éléments qu'on met en image. qui peuvent, bon, 10 pages plus tard, on peut se rendre compte que, bon, il aurait fallu faire ça. Donc, Thierry va me ramener à l'ordre lorsque je lui envoie des esquisses. Mais donc, j'essaie de me laisser surprendre comme le lecteur se laisserait surprendre. Alors, au niveau des émotions, tout ça, bon, j'y vais au rythme des scènes qui sont découpées.
Ça permet de rester surpris, de rester réactif face à l'histoire.
Oui, il y a ce côté-là. Par contre, bon, c'est évident qu'au niveau de la documentation, on discute toujours des grandes lignes du récit, moi et Thierry. Donc, je sais très bien ce qui sera abordé dans l'album. Mais par contre, je ne vais pas dans le détail de chacune des scènes. Je préfère, comme je disais, vraiment me laisser surprendre par ce que Thierry m'amène et puis d'être, comme tu dis, un peu plus réactif par rapport à ce qui m'est présenté.
Donc, ça permet de voir, en fait, je dirais, par exemple, prenons un enjeu au début de l'histoire. Donc, ben, tu l'as esquissé, donc un événement qui arrive à Martha Canary, essentiellement. Donc, comme ça arrive en tout début, on va le dire, c'est un viol qu'elle subit. Dans le fond, c'est une scène qui est difficile, qui est complexe et qui l'amène, dans le fond, justement, vers une espèce de descente aux enfers, si on peut dire qu'elle va vivre à l'intérieur de ce saloon dans lequel elle travaille. Donc, on reçoit une scène comme ça. Est-ce que nécessairement, ça, disons, on choisit d'aller voir un peu quel impact ça va avoir, ou au contraire d'essayer de rendre, sachant qu'il va avoir un impact, essayer de traduire peut-être un peu l'émotivité sans trop essayer justement de voir dans 10-15 pages, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va évoluer tout ça?
Oui, parce que on peut se le dire, c'est que cette scène-là est une scène clé dans le tome 1. Donc, ça, je le savais déjà à l'avance. Mais donc, j'avais eu le temps de réfléchir. Par contre, le setup que Thierry m'a donné, bon, ça se passe à côté d'une porcherie. Il y a un côté qui est immonde dans cette scène. Et je crois que justement, la présence des porcs, tout ça vient renforcer toute cette imagerie qui est choquante. Donc, c'était une scène clé, une scène difficile à mettre en image. C'est que, quoique j'avais déjà une bonne idée, je ne voulais pas tomber dans le voyeurisme. Je voulais que le lecteur soit choqué tout autant que nous, comme auteur, on l'était. Parce que je crois que pour bien goûter l'espèce de rédemption de Capitaine Jane à la fin, sa vengeance, il fallait tout de même choquer le lecteur avec cette scène-là.
Oui, puis à un moment donné, en fait, vous choisissez aussi d'amener la caméra de l'action vers plutôt l'esprit de Calamity Jane, qui se fait comme un peu happé par des tentacules amenés dans les ténèbres. On essaie d'essayer de voir de quelle manière ça peut se passer en esprit, dans le fond, plutôt qu'en geste.
Oui, Thierry aime bien travailler avec des symboliques comme ça. C'est intéressant parce que on comprend très bien, bon, qu'il y a l'espèce de Léviathan qui l'attire vers le fond, bon, c'est la descente aux enfers en fait. Et puis de ça, ben, justement, un peu plus tard, on reprend cette espèce de côté rêverie ou symbolisme lors de sa rédemption lorsqu'elle prend, elle punit un des justement le personnage de violeur en fait.
Et on parle de cette scène-là, et je pense que c'est important de mentionner que ça s'insère dans un tout aussi où, et là, on prend un pas de recul. Quand on parle de Wild West, pour moi, j'ai pas envie de dire sans compromis, mais on ne se cache pas de la violence, de l'aspect sombre, de l'aspect dur, difficile, crasseux. On a mentionné ce terme-là au départ de l'Ouest. Dans le fond, on n'est pas dans une version idéalisée du tout de l'Ouest sauvage.
Non, du tout. On est très loin des films de John Ford. Bon, j'avais dit à Thierry, justement, lorsqu'on avait parlé de Martin Guerre, que je voulais aborder ce côté très sale, et à travers le récit de Wild West, ça me permet justement de montrer la réalité que c'était sûrement pas rose à cette période de cette période de En 1800, le récit se passe environ en 1870 à peu près, après la guerre de sécession. Donc, tout le monde devait se tailler une place, et puis, bon, ça passait par l'arme, ça passait par la violence, etc. Et on voulait bien retranscrire ce type de violence, ce type de vie. Pour ce faire, bon, on avait parlé longuement de Deadwood, qui était une série qui nous avait marqué, qu'on aimait bien. Il y a un petit peu de Quentin Tarantino sans l'humour, mais il y a ce côté sordide du western.
Oui, parce que dans le fond, j'ai bien aimé le terme qu'il a pris, d'en fait survivre à sa vie aussi là-dedans, dans le fond. Donc, c'est des personnages qui sont en mode survie, qui sont en situation de survie. Et donc, la difficulté du contexte amène beaucoup de choix et teinte beaucoup la psychologie de ces personnages-là, dans le fond.
Oui, effectivement. Chaque personnage doit se tailler une place entre autres dans la ville, la petite ville où est-ce que l'action prend place. Donc, il doit survivre. Je reviens à ce mot-là, mais c'est vraiment ça, c'est survivre. C'était des colonisateurs, en fait. Bon, on avançait, on développait, c'était une nouvelle terre, il y avait les Amérindiens, tout ça. Donc, c'était vraiment... il fallait prendre sa place dans ce monde.
Et d'ailleurs, le ton, j'ai l'impression, est donné dès les premières pages du premier tome. En fait, on commence avec une première planche et demie qui est plus bucolique, puis rapidement, rapidement, la violence nous rattrape. Et après ça, bien, dans le fond, on est plongé dans ce contexte-là. Donc, j'imagine que le choix de cette première planche-là est pas laissé au hasard non plus pour avoir un choc qui arrive légèrement plus tard, donc pas dès les premières images.
Oui, on a quelque chose de très joli, beau paysage, coucher de soleil, la petite famille qui s'en va avec sa caravane, le petit garçon qui joue du banjo en chantant Oh Susanna. Et là débarquent ces trois brigands qui assassinent tous les membres de la famille, du moins on le pense. On fait une transition avec la scène suivante, qui est un des malfrats qui est dans les chiottes, en train de jouer au Susanna avec le banjo, assez maladroitement. Et là, il y a White Bill qui arrive. Donc, là, on bascule carrément dans le côté sordide, et de façon très marquée.
Et j'imagine aussi de structurer aussi ces éléments-là à travers les tomes. Donc, dès les premières pages, on disait, on plonge un peu dans cette ambiance-là. Elle est très présente à l'intérieur du premier tome. On est très centré sur cette communauté-là. Et dès le deuxième tome, on commence aussi à agrandir l'univers, à sortir de ce village-là. Et d'une certaine façon, le chemin de fer nous permet de faire des liens aussi géographiques, peut-être, entre les différents lieux, les différents endroits, les différents personnages qu'on va rencontrer.
Oui, parce que comme le tome 1 se déroule plutôt dans une espèce de huis clos, le tome 2 nous amène dans les grands espaces. Et bon, forcément, tout bon western doit mettre en image bon, les scènes de construction de train, parce que bon, c'était justement un élément très important de la découverte de ces territoires. Donc, forcément, il fallait passer par là, mais également aussi pas s'emprisonner dans une espèce d'image très typée du tome 1, qui était les huis clos, qui étaient les chambres, etc., mais d'explorer les grands espaces et puis également les Premières Nations, les peuples des Premières Nations.
Oui, donc ça permet de varier un peu le ton, l'esprit de l'album, d'aller chercher différentes structures, donc de ne pas s'encarcaner. Et autant on le mentionnait, autant le premier tome est centré sur Martha Canary et son chemin de croix pratiquement, autant dans le deuxième, elle est toujours présente, mais si dans le premier, c'était un peu Wild Bill qui était en filigrane en arrière, là c'est un peu Wild Bill dans le second qui prend véritablement l'avant-plan avec Calamity Jane qui est un peu plus en pas de recul, si on peut dire. Donc ça permet aussi d'équilibrer même dans le choix des protagonistes, dans ce qu'on va tenter d'amener à travers ces protagonistes-là aussi.
Voilà, on suit toujours nos deux personnages. Effectivement, White Bill, on a un œil un peu plus dirigé vers White Bill pour le tome 2. On suit tout de même le parcours de Calamity Jane, qui est quand même assez compliqué, assez tortueux. Et puis, les deux personnages, par la suite, vont se revoir, leur destin va se recouper. Et puis, bon, il arrive des choses qui, justement, viennent bouleverser leur vie.
Et on disait tantôt, on en fait Canary, au fil du premier tome, il y a vraiment une grande évolution, évidemment. Wild Bill, tu disais, c'est un personnage qui est peut-être un peu plus renfermé, un peu plus insaisissable. Dans le deuxième tome, ça devient quand même un peu une figure plus centrale, si on peut dire. Est-ce que ça change un peu l'approche au niveau mise en scène quand on se retrouve comme protagoniste principal avec ce type de personne-là qui est beaucoup plus renfermée, qui est beaucoup moins transparente, si on peut dire, sur le plan émotif que Martha Henry dans le premier tome?
Oui, en fait, la gamme d'émotions de Wild Bill est quand même assez restreinte. Donc, à ce moment-là, on va jouer plus. Bon, Wild Bill amène davantage de scènes d'action. Bon, avec son espèce de quête, nous amène dans différents paysages. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut ressortir davantage concernant mon travail pour le tome 2, c'est la découverte de différents paysages, et puis également, bon, l'apparition des Lakota Sioux qui a fait en sorte que j'ai dû ramer pas mal pour la documentation.
Oui, je pense qu'il faut, on est rendu au point, il faut ouvrir la porte sur cette documentation-là. Jacques Lamontagne, Wild West, ça se veut un western réaliste. Évidemment, on n'est pas dans l'hyper-réalisme, donc on est plus dans une logique d'historicité plutôt que d'histoire. Mais ça veut dire aussi que de ton côté, il faut s'assurer que ce soit que ce soit censé que tel élément, que tel vêtement, que telle réalité se retrouve dans le contexte de l'époque. Donc, tu parles de recherche historique, t'en as fait pas mal et pour la peine là, pour les deux tomes et le reste.
Oui, absolument. Bon, j'ai dû acheter une quinzaine de bouquins spécialisés. Un, bon, traite uniquement des étuis, des fusils, des colts, et puis, bon, les armes, les selles, les uniformes, les Indiens. J'ai acheté, bon, j'ai regroupé une vaste documentation. J'ai un de mes amis, Jean-Pierre Vallée, que je salue d'ailleurs, qui m'a aidé énormément. Bon, c'est un type qui se connaît. Qui connaît l'univers western à fond. Mais malgré tout ça, malgré toute la bonne volonté, je ne suis pas un historien. Donc, avant tout, ce que je vais livrer, moi, c'est un récit, c'est une histoire, c'est une aventure pour transporter le lecteur. Et c'est sûr et certain que les spécialistes vont relever des erreurs, des choses. Je pense entre autres à une selle très particulière que la cavalerie utilisait pour les chevaux. Et Jean-Pierre m'expliquait à la toute fin qu'il y avait une espèce de petit cordon de cuir qui venait se rattacher à la queue pour empêcher le basculement. Donc ça, j'avais complètement oublié ça. Alors, comme je dis, si on s'attarde à la série, c'est certain qu'il y a des erreurs. Mais par contre, il y a un minimum de travail au niveau de la recherche pour que le lecteur ne se sente pas trompé en lisant Wild West.
J'imagine qu'il y a une ligne en fait, qu'il faut tracer parce que comme tu dis, c'est un récit d'abord humain, d'action aussi et le reste. Donc, il faut tracer la ligne en disant, ben, t'sais, voici le degré d'historicité que je cherche parce que c'est aussi une boîte de Pandore. J'imagine qu'en tombant dans cette documentation-là, ça te donne des idées, ça t'en est, mais on peut aller loin aussi là-dedans et d'autant avec la quantité de détails que tu nous offres dans Wild West.
Ouais, ben, j'aime bien lire les critiques qui qualifient le travail graphique fait sur Wild West de très, justement, de très, très détaillé, de bon. Mais comme je disais, s'il y a quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, qui a des recherches, un spécialiste sur les uniformes des soldats américains, ben, c'est évident que je vais m'y perdre parce qu'il y a eu tellement de changements. Parfois, d'une année à l'autre, l'année suivante, on avait changé quelque chose au niveau des boutons, tout ça. Je peux pas y arriver. Je suis pas là-dedans, moi, puis ça m'intéresse pas d'y aller non plus.
Ça t'aurait pris un an de plus pratiquement
Ah,
pour le dessiner.
ben oui, on s'en sort pas. Je pense que c'est à mesure qu'on avance dans le travail qu'on relève des points, qu'on dit, ah, ben tiens, ben, je vais le corriger pour la prochaine fois. Mais il y a toujours une nouvelle documentation qui arrive et qui nous fait dire, ah, ben tiens, j'ai fait une erreur. Mais il faut vivre avec ça parce que sinon, comme je disais, on parviendra pas à sortir l'album une fois par année. C'est ce qu'on essaie.
Et est-ce qu'il faut se mettre la main sur certains éléments, dans le fond, s'exercer, parce que, tu sais, on parlait des armes, je pense que c'est un bon exemple. Il y en a beaucoup, il y a différents types d'armes qu'on retrouve à l'intérieur de Wild West. Donc, il faut, j'imagine, s'approprier un peu le design des armes, essayer de comprendre, bon, oui, comment le dessiner de façon individuelle, mais comment il est porté, comment tel ou tel protagoniste aussi va utiliser son arme selon son expérience. Donc, encore là, c'est pas nécessairement évident de mettre la main juste dans le comment de l'usage de ce type d'outil-là.
Ouais, ben, il faut s'improviser un peu, comment je pourrais dire, il faut tenter de devenir de quelle manière on pouvait le porter. Ça me rappelle, Thierry avait a aménagé une scène dans le tome 2 où il y a un type de l'armée américaine qui a son Colt sur la hanche droite, et là, il y a quelqu'un qui dit non, non, ça serait du côté gauche parce qu'il croise comme ça. Mais comme il y avait une espèce de combat entre une rixe entre ce personnage-là et White Bill, j'avais pas le choix de croiser les mains, ça tenait pas. Donc, il faut parfois adapter un petit peu le côté très, très vrai historique avec les scènes qu'on a, et puis que je pense que c'est le plus important, c'est que l'action coule et que le récit se lise bien. Pas trop s'attarder sur des petits trucs, des petits détails comme ça.
Oui, ben en fait, il faut que le côté physique se tienne, mais j'imagine que est-ce qu'on fait des essais, mettons, on se dit OK, c'est à peu près tel poids, ou on suit plus à des photos, par exemple, des photos d'archives, pour comprendre un peu la physicalité de l'usage, pour que ne serait-ce que dans le mouvement, ça se tienne, que ça se sente un peu.
Oui, bien, comme je disais, je commence à avoir une documentation quand même assez solide. Sinon, ben, quand ça ne fait pas, s'il y a une pause, il y a toujours l'appareil photo, et puis on joue au cow-boy durant quelques minutes pour justement aller saisir le mouvement, saisir l'action, parce que ce n'est pas toujours évident.
Parce que j'imagine en fait qu'il y a autant, une fois qu'on a démarré la série, donc le tome 2, 3 et le reste, ça s'accélère peut-être un peu parce qu'on a moins d'appropriation. Dans le fond, on n'a pas à définir l'univers, à le comprendre. Ça doit, par contre, quand on s'approprie un genre puis une période historique comme celle du Western dans Wild West, ben, ça doit être un bon travail en amont du premier tome à faire, justement, pour préparer tout ce dont on va avoir besoin.
Oui, tout à fait. À travers le travail, on développe une certaine aisance à dessiner ces codes du western. Par contre, à chaque fois que si Thierry me transporte dans, je sais pas, dans un hôtel, dans une ville un peu plus grande, un peu plus importante, où tout ça change. Donc, ça passe par les décors, les papiers peints, les meubles. Donc, c'est ça qui est très. Je dirais que c'est peut-être le quart de chaque planche est consacré à cette recherche au niveau des accessoires et tout ça.
Et est-ce que c'est constant un peu dans tes séries à caractère historique ou intégré dans des périodes historiques, qu'on pense à Shelton et Felter, qu'on pense à Aspic, Wild West ou encore les Druides, que peu importe le niveau de réalisme dans le fond, parce que je pense que tu joues un peu aussi entre le réalisme et le semi-réalisme selon les séries, peu importe cet élément-là, que ce travail de documentation-là devient un peu essentiel, omniprésent, et donc à la longue, ben, toi aussi tu développes un peu une méthode, une approche, une spécialisation presque.
Oui, c'est important, comme je disais en début d'entretien, de s'appuyer sur une bonne documentation pour rendre tout crédible. Sinon, le lecteur se sent trompé. Donc, il faut un minimum d'effort pour tout ça, même avec Shelton et Felter, où, si on est dans un univers plus rond, plus cartoon. Malgré ça, j'avais un gros bouquin sur Boston. J'avais acheté également un bouquin sur la White Star lorsqu'on a abordé le tome 2. Savoir un peu, au niveau... j'avais un plan qui me permettait de voir la progression des personnages à travers les différentes pièces. Ça, c'est un minimum d'effort à déployer pour un album. Et je crois que ça se ressent à la lecture, que on prend pas le lecteur pour un imbécile, mais qu'on lui propose des décors qui sont crédibles.
Oui, puis après ça, on parlait du réalisme versus semi-réalisme. J'ai l'impression qu'un trait rond un peu cartoon comme Shelton et Felter, on aurait perdu dans Wild West le côté un peu brut, violent, crasseux de la chose, dans le fond. Donc, déjà aussi, il y a des choix assez fondamentaux qui sont faits, ne serait-ce que dans l'approche de dessin que tu vas choisir de mettre de l'avant.
Oui, oui. Wild West avec une technique comme Shelton et Felter, je crois. Je pense que ça n'aurait pas passé. Mais et l'inverse est aussi vrai. Donc, Shelton et Felter, illustré de façon très réaliste. Il y a cette espèce d'humour qui est toujours derrière le récit qui ne passerait pas avec des personnages plus réalistes.
Et de ton côté, question curiosité, est-ce que tu as une préférence un peu dans le style ou au contraire, justement, le fait de faire de temps en temps des séries plus rondes, si on peut dire, ça vient détendre, ça vient faire changement un peu par rapport à un travail plus réaliste ou.
Ça, c'est toujours, oui, j'adore aborder ces deux aspects graphiques, donc un côté plus rond, puis un côté plus réaliste. Malheureusement, le temps me fait cruellement défaut parce que le travail que ça représente ou à l'ouest, c'est plusieurs jours par planche, ce qui fait en sorte de ralentir. Là, j'essaie d'avancer également chez Ton Felter, mais en mettant priorité sur Wild West, c'est très difficile de trouver le temps. Puis également, bon, il faut quand même, lorsqu'on bascule d'un univers à l'autre, il faut trouver, comment je peux dire, retrouver ses repères un peu parce que on n'aborde pas le travail de la même façon.
Non, en fait, il y a des différences qui sont quand même assez marquées entre les deux, ou.
Ouais, mais ne serait-ce que le dessin, ne serait-ce que le découpage, la façon dont on présente les scènes, le trait qui est différent. Parfois, je vais être poussé, lorsque je viens de quitter Wild West, je vais être poussé à travailler peut-être un peu trop réaliste, parfois certains personnages secondaires. Chatham et Felter, je les connais très bien, mais d'autres personnages secondaires, il faut que je fasse attention pour pas tomber dans quelque chose de trop réaliste. Et l'inverse peut être aussi vrai, c'est-à-dire de pas avoir des personnages trop caricaturaux dans Wild West.
Et à travers tout ça, pour Wild West, par exemple, est-ce que tu as une approche qui est un peu plus, dans le fond, on commence un peu sur papier, à l'encre, éventuellement on passe au numérique pour la couleur, ou on est plus sur support numérique, ou.
Je dirais que 80% du travail se fait sur la table de façon traditionnelle. Je vais avec de tout petits sketchs très, très, très rapides que je crois moi seul et Thierry qu'on peut décoder. Donc, on en parle rapidement. Et par la suite, je vais avec un crayonné qui est plus poussé. Et toujours de façon traditionnelle. Ensuite, c'est le crayonné final, toujours sur la table de dessin. Et il n'y a uniquement que la couleur qui se fait sur l'ordinateur.
Et j'imagine que quand on passe à l'ordinateur pour les éléments de couleur, ben là, il faut faire un travail aussi en amont, par exemple sur les pinceaux, sur les outils qu'on va utiliser pour qu'on garde cet esprit-là, qu'on n'aille pas vers un côté plus artisanal, avec peut-être un peu de perte d'encre des éléments, puis qu'on perde cet aspect-là au numérique. Donc, il faut que tu fasses des outils un peu crasseux, entre guillemets.
Ben voilà, j'ai créé des pinceaux spécifiquement pour le projet Wild West. Je voulais avoir un côté très granuleux, un côté qui soit pas trop lisse, qui soit crasseux. Donc la combinaison des différents pinceaux que j'ai créés donne justement ce côté-là qui est plus réaliste également. Il y a une patine, j'aime beaucoup travailler dans les tonalités de vert, de couleur terre, mélanger tout ça. Donc, ça nous donne le résultat qu'on retrouve dans l'album.
Et encore là, beaucoup d'essais-erreurs pour trouver un peu la bonne palette, les bonnes tonalités, parce que d'un côté, il y a la texture elle-même de l'outil, et de l'autre côté, il y a l'ensemble des couleurs, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans des tons un peu terreux aussi. On sent qu'il y a une réflexion dans ne serait-ce que la palette qu'on va exploiter.
Oui, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à l'époque, s'il y avait un mur qui était peint en vert, forcément, il y avait une couche en dessous qui était peut-être une autre couleur. Donc, j'essaie de jouer avec ça, que le temps fait son œuvre sur les décors qu'on retrouve. Bon, je regarde un peu certaines séries ou films pour me regarder un peu les patines, les couleurs qui sont proposées. Et de retranscrire ça dans notre série.
Et tout ça dans le contexte aussi où je trouve que Wild West laisse une belle place à ton dessin. En fait, pour dire un peu n'importe quoi, mais je me disais, on est presque dans un récit de 46 planches, mais qui est monté sur 54 pour justement permettre d'aller chercher le rythme du western, de faire vivre les paysages, de faire vivre les personnages au-delà d'une narration qui aurait peut-être été trop rapide dans un contexte d'un 46 planches.
Ben, je crois que Thierry voulait bien poser les choses pour les deux premiers albums. Donc, effectivement, le fait d'avoir ce format-là nous permettait de bien mettre la table pour la série Wild West. Par contre, on a pris une décision, ben, En fait, ce que je lui ai proposé, parce que c'est Wild West représente tellement beaucoup de travail. Et si on veut rencontrer un peu le rythme proposé par l'éditeur, on a revu un peu la pagination pour les prochains tomes. Donc, on va passer plutôt sur du 48 pages, donc du 46, pour justement que dans le temps, qu'on puisse respecter cette espèce de rythme de parution. Pour pas trop impatienter le lecteur.
Oui, puis comme dans le fond, dans les deux premiers tomes, on a bien placé l'ambiance, l'univers, la géographie. Donc, après ça, la série peut s'accélérer un peu
Oui, et
selon besoin, dans le fond.
ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque histoire, bon, vient par paire. Donc, ça nous donne quand même un format qui est intéressant pour faire une histoire qui somme toute, peut prendre son temps, s'installer tout doucement. Et puis,
Exact. Et tout ça servi par un dessin. Je parlais d'un niveau de détail, je le réitère. En fait, je veux dire, c'est un travail assez hallucinant que tu fais dans les pages de Wild West, dans les éléments. Et j'imagine que de ton côté, quand tu vois les scénarios arriver, quand tu tombes sur les pages, OK, descriptif petit village, des choses comme ça, il y a des moments où tu dois te prendre la tête des mains en disant, mon Dieu, tu sais dans quoi je vais m'embarquer aujourd'hui avec ces dessins-là qui sont riches, je trouve, là.
Oui, ben, ces dessins-là qui sont riches prennent une somme de travail assez importante. En fait, j'y passe plusieurs heures. On appelle ça des money shots, là. C'est parfois une demi-page où est-ce que, bon, c'est très riche en détails, tout ça. Puis, c'est rigolo parce que j'avais rencontré un éditeur à Angoulême qui m'avait dit, pourquoi tu mets autant de détails dans tes planches? Puis je lui avais dit, ben, pour redonner un peu, moi je me rappelle lorsque je regardais, je lisais, je ne sais pas, Lucky Luke ou d'autres séries étant plus jeune, il y avait de ces cases là où est-ce qu'on notre œil se baladait, on découvrait, il y avait des petites choses qu'on voyait, qu'on découvrait. Et j'ai le goût de redonner ce plaisir-là au lecteur, justement, de s'attarder. Sur certaines cases. C'est rigolo parce qu'il y a certains lecteurs qui me disent j'ai lu l'album à l'intérieur d'une heure et par la suite, je l'ai lu à nouveau, mais uniquement pour regarder, m'attarder plus sur les cases. Donc, c'est sûr que ça c'est beaucoup de travail, mais je sais qu'au bout du compte, ça fait plaisir au lecteur.
Oui, j'ai l'impression que ça nous force. Quand on parlait de rythme tantôt, ben, si on va chercher des références comme Léoné, il y a des travelling, il y a une lenteur aussi qui est pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens positif de la chose. Et
Oui.
j'ai l'impression qu'avec cette approche-là et cette relation-là avec le détail, tu nous forces à ralentir par moment. En fait, il y a des moments où ça s'accélère et on le voit dans la mise en scène, c'est des cases plus rapprochées, presque des
Oui.
mini-fresques très découpées, et d'autres moments où ça respire et où l'œil se balade et où on le fait, ce travelling-là, dans le fond, au fur et à mesure de la lecture, là.
Exactement. Bon, lorsqu'on regarde ces cases-là, il pourrait même avoir la musique qui accompagne, c'est plus lent, c'est plus. Puis effectivement, lorsqu'on veut amener un côté une action plus rapide, une scène de bagarre, où là, on y va avec un enchaînement de cases ou très peu de détails en arrière-plan pour justement que l'œil passe rapidement d'une case à l'autre et rythmer la lecture également.
Et pour le dessinateur, ça fait un peu de variété aussi, j'imagine, après.
Oui, puis. Un petit répit, un petit répit, un petit répit parfois, parce que c'est bien de mettre du détail dans une case, mais il faut savoir bien doser les choses aussi, ou est-ce que lorsque le dialogue devient plus important, il faut laisser la place au texte, au dialogue.
Oui, j'imagine d'où l'importance, en fait, de bien placer l'univers, parce qu'après ça, quand le dialogue ou l'action des personnages doit prendre vraiment l'avant-plan, le lecteur est capable de se référer à ce que tu as placé avant, aux éléments. On sait où on est, on sait c'est quoi l'ambiance. Alors là, on peut se consacrer peut-être un peu plus à l'action aussi.
Voilà, c'est exactement la même chose que dans un roman où on a une longue description du lieu et par la suite, ce ne sont que des dialogues. On a bien installé l'action, on sait dans quel cadre ça se déroule et par la suite, c'est le travail des dialogues qui devient important.
Et ça nous ramène aux personnages aussi, ça nous ramène à l'expressivité de tes personnages-là. Dans le fond, autant on parle de la grande attention aux détails dans les paysages, que ce soit le village du premier tome, que ce soit les plaines hivernales ou les forêts ou le reste qu'on visite dans le deuxième tome aussi. Mais au-delà de ça, il y a aussi les visages et l'attention que tu leur portes. Comment ça se passe? C'est un peu le travail de casting d'entrée de jeu. Et j'imagine après ça, ben, que toute la part aussi de travail pour s'assurer qu'à travers ces visages-là, on est en mesure de rendre la gamme d'émotions qu'on doit offrir et qu'on veut offrir au lecteur.
Ouais, on commence ce travail de souvent de série va me faire des propositions d'acteurs, ne serait-ce que pour cerner les bases d'un visage, d'un trait de caractère. Et par la suite, bon, mais vient parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour ma part, je trouve important de prendre mes distances par la suite par rapport à l'acteur, à la référence de l'acteur. Parce que j'ai pas le goût. J'avais fait l'erreur, mais en fait, avec les druides à l'époque, Jean-Luc Husson m'avait demandé de dessiner Sean Connery. Et puis, je me suis senti prisonnier de l'acteur par la suite. Donc, ce que j'aime davantage, c'est justement structurer le personnage à partir d'une personne publique. Connu, un acteur, et par la suite de m'approprier le personnage. Ensuite vient tout l'aspect du jeu. Il ne faut pas tomber dans la caricature, donc il ne faut pas surjouer, c'est un peu comme. Mais par contre, en dessin, il faut quand même rendre de façon un peu plus manifeste l'émotion du personnage, comme je le sens trop basculer dans la caricature, mais en donnant un peu plus. Qu'au cinéma, prendre cette expression, cette émotion.
Oui, puis il ne faut pas que ça soit figé non plus, il faut que ça soit fluide dans l'expression, dans la manière dont le personnage va vivre ces éléments-là. Sinon, ça a l'air à des photos, un peu un photoroman. On évite aussi complètement cet aspect-là dans l'appropriation plastique de tout ça.
Oui, parce que parfois dans un dialogue, le scénariste peut faire dire au personnage, je suis étonné de telle chose et je suis outré. Bon, c'est quelle expression qu'on prend? On est étonné ou on est outré? Alors, il faut savoir bon, qu'est-ce qui servira davantage la scène. Donc, il y a tout un jeu d'acting et ça, j'adore ça. Justement, toutes ces gammes d'émotions, j'adore jouer avec ça.
Et donc, c'est un peu, ça nous ramène au point de départ quand tu avais demandé à Thierry Gloris justement d'aller chercher un environnement humain, une petite communauté. C'était aussi pour pouvoir te permettre d'exploiter ça. Et au bout du compte, Wild West, c'est un peu ça. Oui, c'est l'Ouest, oui, c'est les paysages, mais c'est d'abord et avant tout un récit centré sur des humains, avec des motivations d'humains, avec des émotions, avec une arc narrative, une arc émotive qui est quand même
Oui,
riche au bout du
exactement.
compte.
Le western n'est que le prétexte. J'avais eu une discussion avec Rosinski à Québec lors du festival de BD, et c'est ce qu'on on était du même avis concernant que l'espace où l'action se déroule, les accessoires ne sont qu'un prétexte pour raconter un drame humain. Et on en avait parlé tout récemment. Le Wild West, en fait, ça pourrait se dérouler à peu près à n'importe quelle période. De nos jours, c'est peut-être un peu moins manifeste, mais à l'époque, bon, il fallait survivre, quelle que soit la période.
Exact. Et pour reprendre, parce que je pense que de toute façon, le tome 1 devient un peu la porte d'entrée vers la série. Encore là, Martha Carey, au départ, si je ne me trompe pas, ça devait s'appeler une femme dans l'Ouest. Et le fait que c'était Calamité Jane était révélé un peu par la suite. Éventuellement, bon, pour diverses raisons, c'est devenu. Ça a pris le nom du personnage principal, mais ça donne le ton. En fait, c'est vraiment. L'a priori du premier tome, c'est vraiment l'arc narratif de Martha Canary. C'est complètement centré sur elle et elle a beaucoup d'espace pour se développer à l'intérieur de l'album.
Oui, tout à fait. Le sous-titre devait être Une femme dans l'Ouest. Pour des raisons, maintenant qu'on comprend tout à fait, l'éditeur a préféré être plus explicite quant au sous-titre Calamité Jane. Mais dans le tome 1, l'arc narratif est tout à fait Une femme dans l'Ouest, une femme qui doit survivre dans l'Ouest.
Et là-dessus, quand on parlait justement du côté théâtre que tu apprécies, Jacques Lamontagne, ben, on est servi un peu, j'imagine, quand on se retrouve comme dessinateur avec un récit comme celui-là à mettre en scène, centré sur un personnage qui va traverser une gamme d'émotions, une gamme d'événements. On en a parlé d'un, il y en a d'autres aussi qu'on ne dévoilera pas. Et j'imagine que ça répond, en fait, les cases d'envie potentielle semblent pas mal toutes cochées, là.
Oui. Je dirais pas qu'on a fait le tour parce on a le goût de mener cette aventure au-delà sur plusieurs tomes, en fait. Mais effectivement, je trouve que c'est satisfaisant. C'est beaucoup de travail, mais c'est satisfaisant de travailler sur une telle série. Le tome 1 a été quand même assez compliqué d'une certaine manière parce que lorsqu'on est dans un huis clos, je pense entre autres au film 10 hommes en colère. Ou La corde d'Alfred Hitchcock, on était dans un huis clos. Et il faut trouver différents plans pour ne pas lasser le lecteur et pas lasser le dessinateur non plus. C'est-à-dire s'amuser, que la caméra bouge, mais tout en respectant le rythme des dialogues, etc. Pour pas que ça devienne redondant. Donc c'était un des grands défis du tome 1. Tandis que le tome 2, on est sur les grands espaces, c'est plus facile. Mais dans un huis clos, c'est plus difficile. Lorsqu'on est dans une chambre ou dans une pièce, de varier les plans, et de réussir, de parvenir à rythmer quand même cette page-là.
Oui, j'ai l'impression que quand on est sur les grands espaces, l'enjeu est plus de faire sentir la distance, le chemin parcouru, la fatigue des déplacements, etc., ou de ne pas tomber dans des trucs qui sont instantanément, on passe d'un environnement à un autre et le reste, là.
Oui, pour ça, pour les grands espaces, c'est la même chose aussi. Donc, c'est de bien présenter ça. Une fois qu'on a présenté l'espace, de varier les plans. Chaque page a toujours son propre défi, et puis il s'agit de le relever, ou du moins d'essayer de le relever.
Et tout ça, tu disais, dans le fond, tu y vas par bloc à peu près 5 pages. Donc, ça permet, tu reçois les 5 pages, puis les analyses, tu fais un peu un découpage. Puis j'imagine que c'est à ce moment-là que tu dis ou que tu sais combien de temps ça va te prendre à peu près. Est-ce qu'on est sur des trucs qui vont s'enchaîner plus vite? Est-ce qu'au contraire, on est sur des paysages, sur des établissements, et là, tu sais que ça va te prendre un peu plus de temps?
Oui, en fait, je reçois le scénario de série en deux étapes. Et c'est moi qui poursuis pas ma lecture sur les pages suivantes. Je vais par bloc, j'analyse, je regarde. J'essaie de fermer les scènes autant que possible. C'est certain que si j'ai pas le temps dans un mois, supposons qu'il y a une scène qui se déroule sur 7 pages, je sais très bien que dans mon mois, je réussirai pas à faire ces 7 pages-là. Mais par contre, je vais tout de même lire les 7 pages pour pas faire d'impair sur justement d'oublier de mettre un accessoire qui serait utile pour un peu plus tard, là. Donc, mais je sais que mon rythme de travail est à peu près de 5 planches par mois avec la colorisation.
Donc, c'est vraiment quand on dit tu vis longtemps avec cet environnement-là, si on fait le calcul sur 54 divisé par 5, et sur les plusieurs années du tome, donc d'autant aussi, j'imagine, quand on se lance dans une aventure comme Wild West ou comme les druides à l'époque aussi que
Oui.
tu as fait sur le long terme, tu sais que tu te lances sur des années aussi. Donc, est-ce que ça oriente un peu la recherche ou l'organisation du travail en amont? Sachant que, tu sais, c'est pratiquement une nouvelle maison, entre guillemets, qu'on est en train de bâtir.
Ouais, en fait, il faut pas, comment je pourrais dire, il faut pas trop voir ça, regarder trop loin parce que ça peut devenir étourdissant. J'essaie d'y aller un album à la fois. Puis bon, là, on sait très bien que avec Dupuis, comme le premier diptyque, le premier tome a très bien fonctionné, le deuxième tome semble suivre le même chemin. On sait qu'on a un autre père parce qu'on a défini l'expression père pour les comme lorsqu'on jouait au poker à l'époque. J'essaie de me limiter ma vision à ça. Il y a Thierry qui est très fringant, qui me dit, bon, qui est plus jeune que moi aussi, qui me dit, ouais, Jacques, on va y aller pour 20, 30 albums. Bon, doucement, oui. Une paire à la fois. Puis, de toute manière, l'important, c'est que le lecteur nous suive. Si on n'a pas de lectorat, ben, il n'y a pas d'album. Alors, bon, ça, c'est l'élément le plus important. Et par la suite, ben, c'est le plaisir également que les auteurs ont à travailler sur la série.
Oui, puis en fait, tu l'as vu avec Druid, l'idée de vivre longtemps avec une série, avec un univers. Donc, tu sais un peu, j'imagine, comment ça se passe, puis comment toi, tu es capable d'appréhender ou d'éviter justement de te lasser, de tomber dans une routine parce que tu maîtrises l'univers de fond en comble. Parce que j'ai l'impression que de ton côté, avoir un peu les projets que tu fais, il y a un plaisir aussi des fois à sauter d'un univers à l'autre, d'une période à l'autre, de te remettre un peu en danger, de redémarrer une bâtisse à quelque part.
C'est certain que il faut pas tomber dans une routine, comme tu disais. Il faut pas. Avec les druides, on a fait 9 tomes. J'ai commencé en 2004, je crois que le dernier, je me rappelle plus, 2015, je crois. On avait l'impression d'avoir fait le tour, moi et Jean-Luc Cuistan. On n'avait plus rien à dire. Et malgré que la série vendait bien. Quand le plaisir n'est plus là, je pense que c'est l'élément le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Parfois, j'ai des petites soupapes, bon, entre autres scénarisées pour d'autres dessinateurs. Là, il y a une série qui va apparaître, qui est très, très ardue à mener à terme. C'est le manoir Sheridan qui était fait avec le dessinateur Mailly, avec lequel j'avais travaillé sur la série Yuna. Bon, ça, c'est justement, c'est des petites bouffées d'air parfois qui me permettent de me changer un petit peu les idées. Non pas que le travail sur une série me déplaît, mais bon, ça fait du bien des fois de regarder lorgner vers d'autres directions, vers d'autres univers.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand on revient, exemple, quand tu reviens à Wild West après ces petites incartades-là, ben, tu as un regard neuf aussi sur les éléments, une énergie renouvelée, puis ça sent aussi pour le lecteur, de toute façon, si vous avez du plaisir à nous l'offrir, on a plus de chances d'avoir du plaisir à le recevoir aussi. Dans le fond, ça, y a une communication qui se fait intrinsèquement dans les ouvrages.
Moi, j'en ai l'intime conviction que si quelqu'un ne réalise une série que pour les sous que ça génère, ça doit se ressentir. Ben, ça se ressent pas. En tout cas, pour certaines séries que j'ai déjà lues, ça se ressentait. Donc, oui, il faut avoir ce plaisir-là derrière le travail. Et puis, c'est ce qui nous donne l'élan, justement, pour surmonter tout le travail que ça représente.
Et évidemment, avec Wild West, et en terminant, j'ai l'impression que vous ouvrez aussi des belles portes parce que l'univers du western que vous attaquez, c'est un univers qui est mythique. Calamity Jane, Wild Bill et les autres, c'est des rockstars de l'époque. Mais c'est aussi des gens qui ont beaucoup inventé dans leur biographie. Il y a les faits, il y a les faits réels, il y a les faits inventés, il y a le mythe, il y a la réalité. Et donc, ce qui fait que autant du côté scénaristique que du côté visuel, ben, ça nous donne la possibilité aussi de se donner des libertés, j'imagine, à l'intérieur du développement de nos visions et de notre appropriation de ces personnages puis de cet univers-là.
Exact. D'ailleurs, dans le tome 3, il y a un personnage qui fait son entrée, qui est un journaliste. Et on voit très bien, en fait, l'héritage de ces journalistes-là qui bonifiaient, qui amplifiaient les faits, les événements. Et on en avait discuté d'ailleurs, et je pense que les principaux intéressés, comme Calamity Jane, devaient très également aussi. Comment je peux dire, multiplier un petit peu les bonifier ses faits d'armes. Et puis, bon, ça fait partie de l'histoire. Et ces histoires-là étaient justement colportées par des journalistes dans des publications à 5 sous, des choses comme ça. Et pour les gens de la côte Est, de voir tout le travail qui se faisait, bon, justement pour la découverte des territoires, etc., l'occupation des territoires. Donc pour eux, c'était du bonbon, même pour les Européens également. Donc c'est certain que les journalistes ont eu pour beaucoup dans la perpétuité de ces légendes-là.
Et maintenant, les auteurs de BD également. Donc, je rappelle, en fait, la série s'appelle Wild West. Il y a déjà deux superbes tomes qui sont disponibles. Donc, le premier, Calamity Jane, le second, Wild Bill. Il y en a deux autres qui s'en viennent également. Jacques Lamontagne, merci beaucoup.
Un grand merci Raymond, au plaisir.
Alors voilà ce qui conclut cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la dernière heure. Toujours un plaisir évidemment d'y être. Et la semaine prochaine, ben, une autre longue entrevue, cette fois avec Jean-Paul Hyde, autour de son petit astronaute.